Bonjour à tous, bienvenue sur ce webcast Microsoft Experience consacré aux nouveautés SQL Server Intégration Services 2016. Je me présente Mathias Sekizian, je suis ingénieur conseil grand compte au sein de la practice Data Insight qui couvre aussi bien les aspects SQL que BI, Big Data et Machine Learning. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Romain Casteres.
Bonjour, Romain Casteres, dans la même équipe que Mathias, donc PFE Data Insight.
Au niveau de l'agenda de ce webcast, nous allons commencer par balayer en fait les nouveautés de SSIS 2016 à travers différentes catégories. Nous allons ensuite vous présenter un certain nombre de démonstrations avec tout d'abord pêle-mêle pas mal de nouveautés autour du développement dans SSIS. Nous verrons également de nouveaux scénarios innovants avec de l'intégration d'analyses prédictives, avec également du data streaming dans SSIS. Nous verrons aussi pour finir de l'intégration Big Data avec SSIS et des clusters Hadoop. Alors en termes de nouveautés, dans SSIS, nous avons des sujets plutôt performance et productivité, nous avons des sujets autour de la facilité de gestion, du monitoring, etc. Et pour finir, de nouveaux scénarios autour de la connectivité, notamment avec Azure dans SSIS. Voilà. En termes de performance et de productivité, déjà, le premier point, c'est qu'on peut travailler avec SSIS, on peut développer avec un outil unifié avec le SSDT SQL Server Data Tools 2015 qui permet de cibler plusieurs versions SSIS pour avoir un environnement de développement unifié. Possibilité aussi de travailler sur des control flows réutilisables pour avoir des modèles en fait, d'approche pour des traitements de données centralisés. On a également la possibilité de faire du data streaming avec un composant qui est maintenant nativement disponible dans SSIS 2016. On a également la possibilité de demander à SSIS de gérer lui-même la taille des buffers mémoire dans l'outil. Donc, c'est plutôt pas mal pour optimiser la consommation mémoire et la performance. Le Balance Data Distributor qui est avant disponible en téléchargement séparé est maintenant disponible directement dans l'outil. On le verra en démonstration. Et également des nouvelles fonctionnalités d'amélioration autour de la gestion des erreurs en flux de sortie dans SSIS. En termes de facilité de gestion, le premier point, c'est maintenant la supportabilité dans SQL Server Always On Availability Group, les groupes de disponibilité, le catalogue SSIS DB pour avoir de la haute disponibilité au niveau de l'ensemble en fait, de ce référentiel des packages, du log et de la configuration de nos flux ETL. La possibilité aussi maintenant de déployer de manière incrémentale les packages SSIS et non plus uniquement au niveau du projet, ce qui permet de travailler en mode encore un peu plus agile au niveau de nos développements SSIS. SSIS qui supporte également l'interaction avec SQL Server Always Encrypted, qui est la technologie de cryptage de bout en bout dans SQL Server 2016 pour travailler avec des données potentiellement sensibles. Nous avons également des nouvelles fonctionnalités telles que SSIS Log Reader pour ouvrir l'accès au référentiel SSIS DB uniquement au niveau des logs pour avoir quelque chose d'un peu plus granulaire en termes de sécurité. Et pour finir, un nouveau niveau de log, le runtime lineage, qui va donner un peu plus d'informations sur la façon dont le package est exécuté sur l'environnement cible.
SSIS apporte aussi de nouveaux connecteurs, et notamment liés au monde cloud hybride. Donc on peut accéder maintenant à un cluster HD Hadoop on-premise ou dans le cloud. On peut aussi accéder à des sources de données de type via le protocole de type OData V3 V4. On peut aussi accéder à des objets de type Analysis Services en mode tabulaire et même traiter des cubes tabulaires. Place à la démonstration.
Donc dans cette première démonstration, je vais vous balayer plusieurs fonctionnalités intéressantes qui sont liées au développement dans les packages SSIS. On va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, dans cette première démonstration, nous allons voir le modèle de control flow. Donc, je vais ouvrir un modèle de control flow qui a été implémenté, qu'on voit dans un emplacement spécifique de notre solution. Ce control flow contient plusieurs transformations. J'ai ouvert un nouveau package qui va aller référencer ce modèle qui est disponible depuis la toolbox SSIS. Je vais lier ce modèle importé avec les control flows existants, les séquences existantes dans mon package. Donc, j'ai référencé mon template dans mon package. Et si je réouvre mon template et je fais une modification en rajoutant une transformation telle qu'une tâche d'expression. Je vais enregistrer mon template. SSIS va m'informer que le package lié va être mis à jour. Je réouvre mon package et on voit bien que la modification a été réalisée. Donc, modification dynamique. Autre nouveauté intéressante, je vais ouvrir un package avec un dataflow existant qui va lire un fichier brut de 1 million de lignes. Dans ce dataflow, j'ai une colonne dérivée, j'ai un lookup sur une table et je peux voir dans les propriétés de mon flux une nouvelle propriété, le Auto Adjust Buffer Size, qui va laisser SSIS gérer lui-même la taille des buffers en mémoire. Je vais travailler sur cette propriété à travers un paramètre que j'ai défini dans mon package, le Auto Adjust Buffer Size, qui est un booléen. Je vais déployer mon package dans mon catalogue SSIS DB, comme ceci, via le wizard. Mon package va être disponible au niveau de mon catalogue SSIS DB dans le dossier Microsoft Experience dans un projet SSIS 2016 comme ceci. Donc je retrouve mon package numéro 2, autoadjustbuffersize.dtsx, et je vais en fait lancer mon package via un script SQL qui interagit avec SSIS DB la première fois sans le paramètre autoadjustbuffersize activé. Puis ensuite activer dans un deuxième temps. Je vais lancer un compteur de performance qui va montrer la conso CPU, le nombre de buffers et la consommation mémoire SSIS au niveau des tampons. Je démarre ma première exécution. Je regarde mon compteur de performance. Je vois notamment en rouge la consommation mémoire des tampons de mon package. Donc j'ai un premier niveau, je vais avoir un petit pic comme ceci. J'ai également la CPU et le nombre de tampons. Ma mémoire redescend, mon package s'est exécuté. Je vais faire la deuxième exécution avec cette fois-ci la nouvelle fonctionnalité activée du Auto Adjust Buffer Size. Et lorsque je regarde les compteurs de performance, on voit que la consommation mémoire est déjà plus faible. Elle s'est adaptée en fait au niveau de la typologie de mon flux, des champs, des types, etc. Donc consommation mémoire plus faible avec autant un niveau équivalent en termes de nombre de tampons, ce qui fait que j'ai une optimisation au niveau de la consommation. Et si je regarde les temps d'exécution de mes deux exécutions, je vois que j'ai un gain d'à peu près 20% pour la deuxième exécution, puisque je suis passé de 14 à 11 secondes, ce qui est un gain de temps intéressant en termes de performance. Troisième démo avec un package qui va aller lire un fichier texte avec plusieurs informations, tout en texte. J'ai une transformation pour caster en fait les types. J'ai notamment un certain nombre de colonnes dans lesquelles je vais pouvoir voir en fait ce qu'on appelle le lineage ID, qui est l'information, l'identité de mon champ dans mon dataflow. Dans mon log SSIS, j'ai un nouvel événement qu'on appelle le diagnostic EX, comme ceci, que je vais pouvoir aller activer lorsque je log en fait mon package SSIS. Et ce diagnostic EX, lorsque je vais exécuter mon package, va me renvoyer ce qu'on appelle le pipeline column map, qui va en fait me faire un espèce de snapshot, une sorte de snapshot des différents champs, des différents ID, des différents champs de mon package pour pouvoir derrière troubleshooter, comprendre un petit peu ce qui se passe. Dans un format mis à plat comme ça de mon pipeline column map, je vois chaque champ en fait de mon dataflow avec son identité numérique, son nom, son type, etc. que je vais pouvoir mapper. J'ai également dans la visionneuse la possibilité d'activer maintenant des informations complémentaires telles que le code description ainsi que le champ qui est à l'origine en fait de l'erreur. J'exécute mon package comme ceci. La visionneuse va apparaître à l'écran et je retrouve dans les dernières colonnes la raison de l'erreur plus la colonne qui est à l'origine de l'erreur, ce qui me permet de donner un peu plus d'informations sur les erreurs. Mon package s'est exécuté, voilà comme ceci. Et si je regarde la table d'erreur qui a récupéré les informations, je vois dans la première colonne l'erreur colonne avec en fait l'ID numérique de champ qui est à l'origine de l'erreur. Et cet ID, le numéro 34, qui dans le column map correspond en fait à l'invoice datkey dans cet exemple. On regarde l'invoice datkey dans la table d'erreur, dans celle-ci, voilà, comme ceci. On voit bien que l'invoice datkey est erroné puisque j'ai le mois numéro 13 qui bien sûr n'existe pas. d'où un problème de typage de valeur du champ que je ne peux pas transformer. Le Balance Data Distributor également, qui est un composant intéressant, disponible nativement maintenant dans la boîte à outils SSIS, plus besoin de l'importer. Et ce composant a l'intérêt en fait de pouvoir répartir équitablement un flux entrant entre plusieurs flux de sortie, comme c'est le cas à l'écran, où j'ai un flux dans lequel je vais écrire en parallèle dans plusieurs fichiers, je pourrais charger dans plusieurs tables, appeler plusieurs web services, etc. pour de la performance. Autre démonstration, avec le flux OData, donc dans ce scénario, cette source OData, je vais aller travailler en fait sur une liste SharePoint Online qui est configurée comme ceci, avec l'adresse de la liste, avec un compte identifié. Je suis en SharePoint Online, donc j'active la Microsoft Online Service Authentication, comme ceci. Donc, la liste ciblée, et c'est la liste suivante, c'est une liste de fournisseurs disponibles dans SharePoint Online. Donc, j'ai des fournisseurs, des informations, des numéros de téléphone, etc. Et je vais pouvoir aller travailler directement avec cette liste nativement via la source OData. Donc, j'ai ma liste de fournisseurs qui apparaît en mode preview. Et lorsque j'exécute mon paquet, je vais pouvoir charger cette liste de fournisseurs directement au niveau, par exemple, d'une table de destination, comme c'est le cas dans cette démonstration. Autre nouveauté intéressante, la possibilité d'utiliser avec les cubes tabulaires in-memory 2016, donc que vous pouvez voir à l'écran, comme ceci dans Management Studio. Donc j'ai des tables, des colonnes, et avec les tâches de transformation d'interaction SSS, je peux maintenant détecter le type d'instance tabulaire dans ce cas de figure. Je vais travailler cette fois-ci avec des tables, donc plutôt que des dimensions comme c'était le cas systématiquement auparavant. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus du type d'objet, j'ai aussi le type de process, tel que le process des fracs spécifiques. J'ai aussi la possibilité de travailler avec le langage de scripting spécifique au tabulaire, donc qui est un type JSON, voilà, pour une tâche de type DDL. Et lorsque j'exécute mon package, j'interagis bien avec mon instance tabulaire SSAS 2016. Dernière démonstration intéressante autour de Always Encrypted. Donc j'ai une table de clients dans laquelle j'ai des informations ainsi qu'une information sensible qui est le numéro de carte bancaire. J'utilise la DMV6.columns et ça va me permettre de voir que la dernière colonne, qui est le numéro de carte de crédit, à une séquence de classement, une collation spécifique liée au cryptage de ce champ, et je récupère des informations spécifiques également telles que le type d'encryption utilisé ainsi que l'algorithme qu'on a mis en œuvre pour crypter ce champ. Si je sélectionne cette table de cette façon, je vois bien en fait que le credit card number apparaît de manière cryptée. Je suis dans Always Encrypted, j'ai en fait un certificat qui a été déployé sur l'application cliente, sur le poste client, et ce qui me laisse la possibilité, du coup, dans ma chaîne de connexion, d'activer le mécanisme d'authentification grâce au certificat, comme ceci. Et cette fois-ci, je peux voir les données en clair grâce à décryptage qui est fait à travers le mécanisme Always Encrypted et le certificat. On va fonctionner de la même façon avec SSIS en utilisant le provider ADO.NET. Je me connecte à la table, nativement, la donnée apparaît de manière cryptée, c'est normal. Voilà. Et compte tenu du fait que j'ai le certificat et qu'au niveau de la chaîne de connexion, je vais activer la propriété colonne encryption settings à enable, donc pour activer le décryptage, cette fois-ci, la donnée va pouvoir apparaître de manière décryptée au niveau de mon flux, donc dans ce cas de figure en tant que source, donc en lecture, mais également la possibilité de travailler sur un champ en écriture en utilisant également ce provider ADO.NET. Voilà.
Donc merci Mathias. Deuxième démonstration finalement sur l'intégration du R et de la tâche data streaming destination. Donc, dans la démonstration, nous allons analyser des feedbacks de clients de la société Worldwide Importer. Les feedbacks sont stockés dans un répertoire on-premise, on pourrait les stocker dans le cloud. Finalement, on va avoir un package SSIS qui va appeler du code R pour catégoriser le sentiment de mes clients et ensuite utiliser le composant Data Streaming Destination pour pousser des informations dans PowerBI.com via l'utilisation d'une gateway. Donc, si on regarde la démonstration, dans un premier temps, il faut activer l'option All On Process sur le provider SSIS OLEDB. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir finalement utiliser le composant Data Streaming Destination. Ici, là, j'exécute un petit code en R dans SQL Server Management Studio pour catégoriser deux phrases, à savoir est-ce que je suis plutôt content ou pas content. Et il m'en ressort un sentiment, -1 si c'est négatif, +1 si c'est positif, et 0 s'il n'a pas su catégoriser. pour automatiser l'exécution de ce script R, j'ai encapsulé finalement le code dans une procédure stockée, où lorsqu'on lui passe un texte, il me catégorise le sentiment de celui-ci. Donc dans ma table, j'ai aussi des informations sur mes customers. Est-ce qu'ils ont fait des achats, quand, combien, etc. Je vais pouvoir corréler finalement ces deux sources d'informations pour avoir l'insight. Dans mon répertoire où j'ai les feedbacks, voici à quoi ressemblent les fichiers. Donc je pourrais avoir plusieurs fichiers comme cela. Dans mon package SSIS, j'ai donc deux sources d'informations. La première, mes achats de mes clients, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et dans la seconde, je vais utiliser la connexion de type multiple flat file pour aller chercher tous les documents du dossier. Et du coup, comme ça, je n'ai pas à utiliser la boucle pour aller chercher chacun des fichiers, etc. Donc, je sorte ensuite ce jeu de données pour pouvoir l'émerger. J'ai ensuite une tâche qui va m'exécuter sur ce flux d'informations, ma procédure qui me calcule le sentiment de mes feedbacks et qui me retourne le sentiment. Donc si on regarde à quoi ressemble ce flux d'informations, lorsque j'exécute le package,
et dans ce package, tu invoques bien le script R qui a été déployé dans la base SQL Server.
Tout à fait. Finalement, encapsulé dans une procédure. Donc, il m'exécute en live, je vois le résultat, et donc je vois les commentaires de mes clients et la notation du sentiment de ce texte. Donc il y en a un qui est plutôt pas content, du coup c'est moins 1. Quand il est content, c'est 1. Quand on ne sait pas, c'est neutre. Donc maintenant, on va utiliser le composant Data Streaming Destination pour pouvoir exécuter à la volée ce package et avoir le résultat à la volée. Donc pour ce faire, dans un premier temps, il faut configurer la tâche. Pas très compliqué, il suffit de sélectionner les colonnes en sortie que je souhaite avoir. Donc, je publie mon package dans mon magasin de package. Voilà, une fois que c'est fait, j'utilise le composant Data Feed Publication Wizard pour spécifier à SSIS que ce package est de type streaming. Donc, je sélectionne mon package que je viens de publier. Et puis je configure certaines choses comme la database de données où je vais stocker finalement la vue qui me contient, finalement qui va me permettre d'exécuter à la volée mon package. Je précise le schéma SSIS pour pouvoir le retrouver plus simplement. Donc il me publie. Il me publie quoi ? Finalement il me publie une vue que je vais pouvoir aller regarder. Voilà, c'est celle-ci. Donc maintenant je peux exécuter comme n'importe quelle vue. Et derrière, il m'exécute le package. Si je rajoute après de nouveaux fichiers, de nouveaux feedbacks dans le dossier, voilà, donc là, j'ai les résultats avec les feedbacks. Si je rajoute un fichier avec d'autres feedbacks, eh bien, finalement, lorsque je vais réexécuter, il va me prendre en compte ces nouveaux feedbacks. Donc ici, là, j'utilise une open query au-dessus de mon Linked Server de type SSIS. Donc ici, on voit que le package SSIS est en cours d'exécution. Si on regarde le fichier que je viens de rajouter, je vais pouvoir voir les nouveaux feedbacks. Donc, il y en a 2 de plus. J'en avais 10. Voilà, maintenant, j'ai les 12 feedbacks. Et comme ça, lorsque j'exécute mon package, il me reprend les nouvelles données. Donc ici, je suis dans Power BI Desktop et je me suis connecté à ce flux d'informations. Lorsque je fais un refresh, il va me réexécuter le package SSIS et m'afficher les nouvelles informations. Ici, j'ai publié dans le portail powerbi.com, mon package, lorsque je vais refresh, il fait appel à la gateway pour aller me chercher mes données dans mon dossier qui est on-premise.
Une vraie analyse temps réel.
Tout à fait. Dernière démonstration sur l'intégration de Azure et de Hadoop via SSIS. Donc les nouvelles tâches. Il y en a un certain nombre, du coup on va plutôt passer à la présentation. Donc là, j'ai une sandbox Hortonworks Data Platform que j'ai on-premise. Donc, dans ce cluster, j'ai, dans l'HDFS, uploadé des informations, à savoir des fichiers sur des logs de visite de page web. Ils sont en format TSV, pour Tabular Separated Values. Je vais, dans SSIS, utiliser la tâche de type File System Task Editor pour finalement copier ces fichiers-là du dossier input dans un dossier de travail que j'ai appelé STG, pour staging. Une fois que j'ai mes fichiers à traiter dans le répertoire staging, pour chacun de ces fichiers, du coup là j'utilise le for each HDFS énumérateur, je vais effectuer une tâche. Et cette tâche, c'est celle-ci. Donc je prends mes différents fichiers TSV, je peux choisir les différentes colonnes de mon fichier. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai pris un certain nombre de colonnes et pas toutes les colonnes. J'ai rajouté de l'insight en rajoutant notamment la date de traitement. Et en sortie, je stocke ce résultat dans mon dossier ici de destination au format ORC. ORC, c'est le format Optimized Row Columnar, ce qui me permet d'optimiser mes traitements par la suite de type Hive. Donc mes données seront stockées dorénavant en mode colonne et du coup les traitements Hive seront plus rapides. Donc si je vais dans le répertoire HDFS ORC, je vais voir mes nouveaux fichiers qui sont compressés et du coup qui prennent moins de taille. Ici, j'ai créé une simple table externe au-dessus de mon dossier où mes fichiers sont stockés en format ORC, ce qui va me permettre d'optimiser les traitements. Donc là, c'était le côté on-premise, gestion de fichiers dans la HDFS, et on voit qu'on peut faire des choses plutôt sympas. Maintenant, côté cloud, on a la capacité dans ce package SSIS de créer à la volée un cluster HD Insight, et du coup, je précise la taille, à savoir ici 4 nœuds, la location, bien entendu, et mon compte Azure, ma souscription Azure. Une fois que j'ai spécifié ça, je vais pouvoir utiliser et spécifier un container. Et ici, j'ai spécifié un blob storage dans lequel j'ai déjà des données. L'idée, c'est de traiter des données à la volée, sauvegarder le résultat, supprimer mon cluster. Comme ça, j'aurais payé finalement mon cluster que pour le compute et l'exécution de tâches là de type Hive. Donc j'ai une première tâche weblogs qui va me créer une external table au-dessus de mes données stockées dans mon blob storage. Et ensuite, pour ajouter de l'insight, j'ai une nouvelle table client error où là, je vais prendre uniquement finalement ce qui m'intéresse. Je stocke le résultat dans mon blob storage et donc je peux supprimer mon cluster une fois que j'ai ce résultat. Une fois que j'ai ces résultats, je peux le télécharger. Et du coup, là, j'ai utilisé les tâches de type Azure Blob Download. Et du coup, je télécharge mes deux résultats, finalement, on-premise, et que j'insère dans une base de données de type SQL Server on-premise.
Une solution de bout en bout de traitement.
Voilà, un exemple de traitement qui est plutôt pertinent, parce que finalement, on ne paye que le compute lorsqu'on en a besoin. Et du coup, j'ai traité, imaginons, un gros volume de données le soir pendant une heure. J'ai payé mon cluster HD Insight que pendant l'heure où il exécutait ces traitements-là.
Merci à tous d'avoir suivi ce webcast consacré aux nouveautés sur SSIS 2016. N'hésitez pas à vous rendre sur cet article qui va détailler toutes ces informations.
Ainsi que sur le blog Data Platform. Merci.
Merci à tous.